Bienvenue dans Faut qu'on en parle, la suite.
Soyez les bienvenus dans Faut qu'on en parle, la suite. Après ces deux heures de débat intense, on se retrouve pour 20 minutes de bonus, l'occasion de prolonger la discussion, de revenir sur ce qui s'est pas dit à l'antenne et surtout de vous dévoiler les coulisses de l'émission. Pendant deux heures, on a abordé un sujet qui vous a fait réagir, la télé-réalité, l'influence et leur place dans notre culture. Nos invités en plateau ont confronté leur point de vue, partagé leur analyse, leurs expériences, parfois leurs désaccords autour d'une même question. Assiste-t-on à un effondrement ou à une transformation profonde de nos repères culturels? Mais dans Faut qu'on en parle, la suite. On va aller encore plus loin, on revient sur ce qui n'a pas été dit, sur les débats ouverts mais pas terminés, sur les réflexions laissées en suspense. Bien évidemment, on ne change pas l'équipe, je suis toujours en compagnie de Luc et bien sûr de tous nos invités, toujours avec nous pour poursuivre cette discussion. Alors on a conclu l'émission principale avec un mot pour résumer ce débat. Et pour ouvrir Faut qu'on en parle la suite, on va donc faire un tour de table avec le mot qui manque. Olivier, quel serait pour toi le sujet qui n'a pas été suffisamment abordé ou même complètement oublié dans l'émission principale?
En fait, le truc qui me vient en tête, c'est à la toute fin, quand vous demandez notre mot final. Et en fait, je pense que j'aurais dû dire aussi que ce qui est cool, c'est qu'on a eu deux heures pour en parler et qu'en fait, c'est un sujet qui est finalement beaucoup plus complexe que ce qu'on croit et que majoritairement, c'est abordé dans des émissions qui durent entre 10 et 15 minutes, quoi. Alors, des fois, ça peut durer un peu plus, mais c'est rare qu'on ait deux heures. Et je pense que c'est important parce que ça prouve qu'on est sur un sujet qui demande du temps de réflexion. Et c'est important, en fait, de prendre ça en compte quand on se questionne sur les nouveaux médias, en fait, de ne pas penser que c'est un sujet simple, mais bien un sujet complexe qui demande, en fait, vraiment du temps pour y penser.
On est bien d'accord. Et d'ailleurs, en repensant à tout ce qu'on a pu dire pendant les deux heures de l'émission principale, en tout cas, il y a plein d'idées qui pourraient même faire germer des émissions à part entière. Clairement, et on pourrait redébattre pendant deux heures d'un point précis, tellement il y a de choses à développer. Tu as raison, Olivier. Gary, de ton côté.
Alors moi, qu'est-ce que c'est le mot qui manque? Ça serait demain. Alors qu'est-ce que j'entends par demain? C'est-à-dire qu'on a parlé d'aujourd'hui, de cette nouvelle culture d'aujourd'hui, mais quelle serait la culture de demain? C'est-à-dire que l'évolution de demain. Là, on se questionne sur ce qui se passe aujourd'hui, mais moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est ce qui se passe demain. Donc du coup, est-ce qu'on va faire de l'IA réalité au final? Et ce ne sera plus des gens de télé-réalité,
On pourrait
mais
dire...
des Sims qui seront réalité. Je ne sais pas.
Quand tu vois que dans l'industrie du cinéma, l'IA s'implante, oui, c'est vrai, c'est quoi la culture de demain? L'IA est en train d'arriver à vitesse plus que grand V.
Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur dans votre milieu? Est-ce que c'est des sujets auxquels vous discutez? Ou pour l'instant, vous vivez au jour le jour, on va dire
On ne peut pas vivre au jour le jour parce que ça va très vite. C'est-à-dire que on pouvait se poser cette question il y a un an, en tout cas, en disant « oui, bon, ça va venir, ça viendra ». Mais là, je trouve que tout le monde a ChatGPT pour parler que de ça, ou Gemini, ou tout ce que tu veux. Les gens vont penser que c'est un voyant, lui parle comme un voyant, lui parle comme un psy, lui parle comme un amoureux, lui parle comme… rien que pour parler de ça, ça devient très… c'est très questionnant. Et quand on voit tout ce qu'on fait avec… Moi, ça me panique de voir des publicités faites à l'IA, de voir des
il y a même parce que les vidéos sont parfaites maintenant.
Ça, l'imitation des voix, les doubleurs. Enfin, on peut parler de plein de choses, les doubleurs qui font les doublages en français ou etc., etc. On peut même prendre la voix, par exemple, de Michel Drucker et le mettre sur une IA. On va l'IA de Michel Drucker en pensant que c'est lui. Ce n'est pas lui. Donc c'est ça fait peur.
Donc toi, qui es un peu dans le domaine de tout ce qui est communication, comédien, télé-réalité, est-ce que tu as peur d'être remplacé très prochainement par un robot?
Je vais être remplacé par un robot, c'est-à-dire qu'il y aura un Gary Jarny double.
Alors tu vois, là c'est très drôle, vous voyez, là où c'est très drôle, c'est qu'on est presque en train de parler du « c'était mieux avant ». Tu vois, tu dis c'est quoi le truc de demain? Ça me fait peur en fait, l'IA, etc. Et donc demain, quand on y sera, on refera une émission sur le sujet et on dira finalement, ça fait partie de la culture, c'est normal, etc. Non?
C'est dont on parlait tout à l'heure, attention, c'est que laisser libre cours à toute l'industrie sans questionner ce que ça peut avoir comme impact sur les autres, c'est pas une bonne chose non plus. Quand on dit qu'il faut pas tomber dans le « c'était mieux avant », il faut pas non plus tomber dans le risque inverse de ne jamais questionner quel impact ça peut avoir sur la culture et sur le professionnalisme.
Et sachant qu'il faut pas être dupe, tout ça est toujours souvent utilisé dans le but de faire de l'argent ou de manipuler les gens, etc. Donc il faut en avoir conscience. Donc, il faudra le prendre en compte.
Derrière l'IA, alors ça sera une nouvelle culture au sens, mais c'est plus que de la culture, parce que là, ça va. C'est-à-dire que pour nous tous, quel que soit qui on est, ça va changer notre vie. Parce que tous les ouvriers vont peut-être pouvoir perdre leur job. Il y a 36...
on a fait une émission sur le sujet, elle n'est pas très rassurante. Je vous la cache pas.
Et en fait, ce qui est dangereux avec l'IA, c'est pas parce que ce serait mieux avant sans l'IA, c'est parce que moi, je dis oui à l'IA, parce qu'il y a des trucs qui sont très intéressants. Par exemple, tu recherches... Moi, maintenant, je vais plus sur Google, je demande à...
De plus en plus.
Ou je sais pas quoi. Quand... Ouais. Voilà, c'est ça, c'est un automatisme. Mais là, c'est pas très grave, j'ai envie de te dire, sur quelque chose comme ça. Mais ce qui me fait peur avec l'IA, c'est le non-contrôle qu'il y a derrière. C'est ça qui fait peur.
Et surtout qu'effectivement, aujourd'hui, on n'est plus capable de distinguer une vraie d'une fausse vidéo. Tout à l'heure, on parlait du réseau X. Quand on scrolle sur X, mais c'est du grand n'importe quoi. C'est la majorité des vidéos, c'est du fake. Alors, des trucs, ça se voit, des trucs, ça se voit pas. En fait, tu peux plus prendre une information. Oui, mais tu peux plus prendre une information sur X, une vidéo, tu dis, ah, en fait, c'est vrai. Non, en fait, t'en sais rien.
Mais TikTok le fait aussi, Instagram
bien sûr.
Le fait aussi.
Mais je crois que c'est sur TikTok récemment qu'il y a eu une vidéo comme quoi Paris avait été bombardé avec des hélicoptères, etc. Et il y a un président, alors je ne sais plus de quel pays africain,
il y a des trucs qui sont trop gros.
Avait appelé Macron apparemment pour demander si c'était vrai ou pas.
Mais c'est trop gros, mais des fois plus c'est gros, plus ça passe. Donc là, est-ce qu'on n'est pas dans une dérive totale c'est plus de la culture, ça devient complètement fou au final.
Avec l'IA, moi, ce qui me fait peur, c'est la pensée unique. Parce que l'IA, ce qui me fait peur derrière, c'est que c'est très unique comme façon de penser. Ça, c'est ma vision personnelle et que j'y vois. Je n'ai pas de chiffres, je ne sais pas si les gens le pensent comme ça, mais je trouve qu'il y a une pensée qui est très unique. Et là, on est très dans Big Brother Watching You de George Orwell. Et c'est ça qui me fait un peu peur, quoi, avec l'IA.
Ouais, donc ça, c'est un sujet, effectivement, et ça pourrait être une émission à part entière, l'IA au service de la culture ou pas, justement. Parce que l'IA au sens large, bien évidemment. Et là, on pourrait encore
parce
en débattre
deux
heures.
Parce que la richesse de la culture... Voilà, comme on en parle, c'est qu'on en discute, c'est qu'on a des idées différentes. C'est ça la culture, elle fait débattre. C'est ça qui est intéressant la culture. L'IA, elle va faire débattre de quoi ? Si c'est la même pensée unique qui est dite, on va être contre, on va être pour. Voilà, ça s'arrête là. Super, c'est dommage. C'est très pauvre. Hein, comme.
Et encore, on sera tellement orienté qu'on sera plus pour ou plus contre. On aura, encore une fois, qu'un seul avis.
Il faudra qu'on réécoute cette émission dans quelques années, dans 5-6 ans, et on en refait une sur le sujet. Et là, on se dira, on avait tort, on avait raison. Effectivement.
Ça serait intéressant.
Ouais.
Parce qu'on n'a jamais été dépendant de sa télé, dépendant de son... Non. Enfin, on a commencé avec le téléphone, entre guillemets. Donc, voilà. Et donc, l'IA arrive. Mais je veux dire, entre guillemets, on n'est jamais dépendant d'un bouquin, on n'est pas dépendant de sa radio, on n'est pas dépendant de sa télé. Donc là, c'est ça qui fait peur avec l'IA. C'est... Voilà.
Toi, Olivier, tu en penses quoi en tant que psychologue ?
Ça m'intéresse beaucoup, moi c'est le sujet sur lequel je travaille actuellement plus, et notamment parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le Harvard Business Review a montré l'an dernier que l'usage numéro 1 qui est fait de ces chatbots, c'est l'usage en tant que compagnon ou thérapeute.
Oui, tout à fait,
c'est
quelque
chose
ça.
De très, très inquiétant.
Ouais.
Voilà, et surtout que malheureusement, alors je ne suis pas non plus anti, dans le sens où déjà moi je me sers de l'IA, pas comme compagnon, mais c'est vrai que pour poser des questions ou pour m'aider à rédiger des mails quand je n'ai pas envie de le faire.
C'est un outil pour gagner du temps
contre,
en fait, voilà, il faut le voir
oui,
comme ça.
Oui, et puis même, c'est vrai que c'est un outil très intéressant, mais par contre, moi ce qui me questionne, c'est encore une fois le fait qu'on commercialise des IA en vous faisant croire que ça peut être des amis ou des thérapeutes, et ça c'est très problématique parce que ça va renforcer la solitude, renforcer les sentiments de mal-être, et ça c'est très problématique. Vous avez vu les pubs dans le métro là pour le IA Friends, vous savez là le collier qui justement veut être commercialisé, donc il ne sera pas avant longtemps parce que d'un point de vue législation européenne ça passera pas.
Ouais, mais ils essaient de faire des robots collier, aussi
comme dans
comme
le film
ça.
Over de Spike Jonze, vous savez.
Et ça c'est
très problématique.
Donc oui, là on est vraiment dans quelque chose de différent. Voilà, faudra en tenir compte parce que le monde évolue et on va pas avoir le choix clairement.
Ah bah, comme l'a dit Gary tout à l'heure, c'est très important de penser, il faut déjà y réfléchir, on ne peut plus dire on verra ça demain, parce que là, c'est le moment, là. Il faut vraiment se questionner déjà dessus.
Et tout ça en combien de temps ? Ça fait quoi ? Allez, 3-4 ans, même pas ? Depuis qu'il y a eu l'avènement de ChatGPT, c'était quoi ? Fin 2022 peut-être ? Quelque chose comme ça ?
Ouais.
En l'espace de 3-4 ans, l'IA devient dans les mœurs, ne serait-ce que pour le chat, hein, parce que maintenant ça va bien plus loin que ça, on en a parlé dans une émission que j'invite tous nos auditeurs à écouter autour de l'IA et des 4 phases jusqu'au remplacement total. De par les machines, c'est assez flippant. Oui, il va falloir en tenir compte, il va falloir être très vigilant.
On dérive sur la partie ressenti de nos auditeurs après avoir eu le ressenti de nos invités sur cette fin d'émission et sur ce qui manquait.
Quelques sondages.
Donc, comme d'habitude, vous avez été très nombreux à répondre à nos sondages. Notre première question était de savoir par quel support vous consommez le plus les contenus. Vous avez été 79% à nous répondre que c'est sur les réseaux sociaux et via un smartphone, très loin devant la télévision et les médias traditionnels. 79%, c'est un chiffre qui vous parle. Est-ce que c'est plutôt en accord avec ce que vous voyez ? Est-ce que c'est représentatif ?
Alors, moi, 79%, ce qui me fait peur, C'est quel réseau social?
Là, par contre, on n'a pas posé plus de questions que ça. C'est effectivement aujourd'hui comment les gens consomment
Voilà.
ces
Alors,
contenus. Allez, 8 sur 10 disent. Et
oui.
encore, moi, je trouve même que le chiffre était plutôt faible, tu vois. J'aurais même pensé plus, tu vois. Mais bon.
Bon, ça dépend après des âges.
Après, voilà, c'est ça. C'est qu'on n'a pas ces infos. Peut-être que les personnes très âgées n'utilisent pas ça et font partie des 20% restants. Mais quand on voit des gens qui ont 30 ans, tout le monde.
Ou ne se rendent pas compte aussi de
sur
l'utiliser.
Quel réseau?
Peut-être. Peut-être aussi qu'il y en a qui ne se rendent pas compte d'utiliser des réseaux sociaux, enfin, ou en tout cas des algorithmes qui leur montrent des choses. Ne serait-ce que, prenons ne serait-ce que sur un smartphone, regarder des news, prenons Google Discover par exemple. Bah, c'est déjà un réseau social en fait au final. Les gens ne le savent pas. Ils scrollent, l'algo, il propose déjà ce que les gens aiment. Donc on est déjà finalement dans le réseau social de Google. Et ce n'est pas du Facebook, Twitter, enfin X, Insta, etc.
Oui.
Après, c'est vous qui avez fait le sondage, c'est ça?
Oui,
avec
oui.
nos auditeurs, oui.
Ouais, on a fait.
Voilà. Donc, en fait, c'est intéressant aussi de questionner l'échantillon et donc sa représentativité d'un point de vue statistique, dans le
oui.
sens où ça veut dire que parmi vos auditeurs, les
tout
gens
fait.
Vont surtout sur. Et c'est vrai que si le sondage avait été mis, par exemple, dans le Monde version papier ou était passé à la
on
télé,
n'aurait pas eu les
peut-être
mêmes
que les
chiffres,
résultats
peut-être.
auraient aussi été
Tout à
différents.
fait. Ouais, effectivement.
Et ça, c'est important aussi à penser parce que je pense que ça veut dire aussi que les gens qui écoutent votre émission
Ils
sont
sont
des
sur le
gens qui,
digital
justement,
déjà,
vont avoir
bien
cette
sûr.
culture-là aussi de s'enseigner ailleurs, quoi.
Mais c'est vrai, quand on regarde autour de nous, on voit bien que oui, allez, 8 personnes sur 10, ça paraît plus que crédible, en fait, au final, aujourd'hui.
Oui, mais parce que c'est un fait.
Oui.
C'est-à-dire même les gens, maintenant, quand ils veulent faire des recettes de cuisine...
Ce qui vous aurait
enfin,
choqué, c'est si on
avait
eu... Oui, c'est si on avait eu...
Eh
oui, tout à fait. Ce qui aurait été choquant, c'est s'il y avait eu personne qui répondait « Bah non, j'utilise pas, on le voit bien autour de nous. » On a également posé une autre question à nos auditeurs, un sondage sur « À qui faites-vous le plus confiance pour découvrir les tendances culturelles, mode, séries, livres, débats, par exemple ?» 49% aux influenceurs et aux créateurs de contenu, on va dire 1 sur 2. 34% quand même autour d'eux et aux amis, donc le bouche-à-oreille, ça marche encore, et les proches, et 17% seulement aux médias traditionnels. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces chiffres?
Bah, on en parlait tout à l'heure, encore une fois, tout dépend de quels influenceurs vous parlez. Si vous avez un influenceur ciné que vous aimez bien, et qui fait un travail top et qui fait des super bonnes reviews de cinéma et que vous avez l'habitude de regarder, évidemment que au bout d'un moment, vous vous attachez à cet influenceur et vous êtes même capable de savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et donc, vous êtes capable de vous dire, bah, si lui, il aime, moi, je vais aimer. Et c'est un peu comme quand on fait du bouche à oreille. Quand un copain à vous vous conseille un livre ou une
Bien
série,
sûr.
vous savez d'avance si elle va vous plaire en fonction du copain qui vous le dit, quoi.
Bah c'est ça, si le gars c'est un fan de gaming, par exemple, et qui nous parle d'un super truc sur les jeux vidéo et que nous on n'aime pas les jeux vidéo, bon bah ouais, tu peux me le conseiller, c'est peut-être très bien. Bah oui, peut-être, c'est ton avis, bon voilà, on est d'accord, ouais.
C'est ça, c'est en fait moi si j'ai un copain qui aime les comédies franchouillardes alors que moi j'aime pas ça, bah il peut me conseiller d'aller regarder le nouveau Tuche, bah je vais
Oui.
pas y aller parce que ça je sais que ça m'intéresse pas. Mais si par contre j'ai un influenceur que je regarde régulièrement, qui me conseille une œuvre et je sais qu'à chaque fois que je l'écoute, je suis assez d'accord avec lui et que j'aime son avis, bah oui, c'est moi ça me choque pas qu'on suive en fait cet avis-là. Encore une fois, c'est pas la même chose que d'écouter bêtement et de suivre bêtement parce que telle personne nous a dit de
C'est
faire.
plutôt dans
C'est
l'esprit confiance,
avoir un regard critique.
je pense que ces chiffres peuvent relever plutôt la confiance, c'est qu'en gros les gens ont encore confiance dans leurs amis. Alors oui, peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, mais voilà, c'est sûr que voilà, je parlais de jeux vidéo, si on parle à quelqu'un qui n'aime pas les jeux vidéo, bon, même ça peut être notre pote, mais juste c'est dans l'esprit de la confiance en fait. C'est que beaucoup ont confiance finalement maintenant dans les influenceurs, a priori en tout cas dans nos auditeurs, une personne sur deux a confiance finalement dans cette nouvelle façon de communiquer, de culture, de se dire bon bah c'est influenceur, voilà j'ai confiance en ce qu'il me dit, parce que peut-être comme
mais parce que
tu
aussi
le dis Olivier,
l'influenceur comme on disait tout à l'heure il est pas il est il est il y a une subjectivité de l'influenceur, il est pas comme une émission télé, ça veut dire qu'on est
ouais.
attaché à lui
oui
et
et
c'est
puis
ça
on
qui
est
vient
proche
faire
de
la
ses
différence.
idées probablement, sinon on le suit pas, on le follow pas, on le suit pas, on regarde pas en fait.
C'est ça. Moi, si je vois un influenceur que je n'ai jamais regardé de ma vie qui me conseille une série, je ne vais pas forcément aller voir la
Ben
série.
oui, parce qu'il faut
Il y a
d'abord voir ce que
tout
lui
cet
pense.
attachement qui se met en place.
Tout à fait.
Et on passe aux questions qui sont le plus revenues de nos auditeurs. Beaucoup nous ont demandé, quand on travaille dans la culture, les médias ou le numérique, est-ce qu'on arrive encore à regarder la télé-réalité ou encore les réseaux sociaux pour le plaisir? Ou est-ce que c'est toujours analysé, décortiqué, avec une mise à distance particulière?
Gary,
Gary,
qu'est-ce que tu en penses de ça?
Alors moi, je regarde tout. C'est pas parce que je fais que je ne regarde pas. Je regarde parce que je reste, quoi qu'il arrive, un humain qui a envie d'être diverti et qui a envie de s'amuser aussi. Et c'est surtout que même si c'est mon domaine professionnel aujourd'hui, c'est surtout parce que, bon, après, c'est dans l'ordre personnel, c'est que les histoires qui vont se passer dans d'autres aventures, forcément, à un moment donné, je vais les croiser, ces gens-là, donc ça va m'intéresser.
Oui, parce que tu es dans le milieu, donc vous croisez forcément. Voilà. Ouais.
Mais il ne faut jamais se lasser, il faut toujours continuer à se divertir, quel que soit qu'on vit de ça ou pas du tout. Je veux dire, avec un regard extérieur toujours, mais je pense que je l'ai toujours eu, donc... Il est juste différent parce que maintenant je le vis, c'est tout. Mais au final, j'ai toujours ce recul.
Oui, donc ça reste bien une émotion et non pas un objet de travail.
Exactement. Il faut garder ça. Le jour où, quel que soit, en tout cas quand on fait un travail passion, parce que je ne veux pas dire que tout le monde fait, malheureusement, tout le monde ne fait pas un travail passion, mais c'est comme vous qui faites de la radio. Enfin voilà, le jour où tu prends plus d'émotion, que tu n'es plus dans l'affect avec ça, je ne suis pas sûr que vous continuez. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a quand même la chance de vivre d'un média. Qu'on kiffe. C'est comme le fait d'être psychologue, je pense que voilà, ça demande aussi une réelle envie. On n'est pas psychologue parce qu'on se dit j'ai fait des études, je suis psychologue. Non, il y a quand même une vibration qui se fait. Donc le jour où on n'a plus envie, on n'a plus cette émotion, plus cette vibration, bah, dans ce cas-là, on arrête. Quoi. Enfin, voilà.
Et là, pour le coup, puisqu'on est dans les coulisses, effectivement, il faut qu'on en parle. Reste une passion pour nous. Voilà, clairement. Et pas notre gagne-pain. Voilà, on le précise. Et oui, tu vois.
Et toi, Olivier, donc, du coup,
c'est pour ça qu'on le fait.
Et oui.
Et toi, Olivier, du coup, est-ce que le fait de traiter souvent les jeux vidéo, peut-être dans tes consultations et tout, ça reste toujours un plaisir ou ça, des fois, tu te dis, ah, ça, c'est le côté travail.
Ah non, moi, j'adore mon taf. Et c'est vrai, psychologue, c'est un métier qui est quand même assez éreintant, dans le sens où moi, je bosse à moitié en hôpital pour enfants et adolescents et à moitié en cabinet. Et c'est vrai qu'on a des histoires quand même assez trash. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de... Et donc, des fois, quand on commence à 9h et qu'on finit à 21h30, on est un peu mal. Et pourtant, moi, je suis quand même toujours heureux parce que j'adore ce que je fais et que je me sens utile. Et en fait, moi, j'ai encore plus eu cette chance-là de rajouter une corde à mon arc parce qu'en fait, je travaille pas que sur le numérique. Je suis aussi psy, donc j'ai aussi des patients qui viennent parce qu'ils ont besoin de voir un psy, quoi. Mais en plus de ça, moi, j'ai pu rajouter comme corde à mon arc les nouvelles technologies. Donc, j'ai lié l'utile à l'agréable. Et moi, c'est un bonheur. Donc, et en effet, le jour où j'en aurai marre, j'arrêterai et je deviendrai caviste, je pense. Mais,
Parce que c'est peut-être une passion. Qui
en tout cas, c'est une passion.
Ouais, c'est ça. Après, on dit souvent la crise de la quarantaine, etc. Envie de changer de métier, voilà. Changer d'air, voilà. En plus, des choses qui nous plaisent, en général. Et s'élargir, pourquoi pas, à la culture. Hein, voilà, effectivement.
Et oui, il nous reste moins de 2 minutes, l'occasion pour nous de nous donner, de vous donner plutôt notre ressenti et de vous dévoiler nos coulisses. Alors Luc, pourquoi avoir choisi cette émission? Comment nous est venue l'idée?
Eh bien, parce que déjà la télé-réalité et l'influence, ça fait partie aujourd'hui du quotidien de tous les Français, hein. Qu'on le veuille ou non, on ne voulait pas ni diaboliser le sujet, ni glorifier, mais bien comprendre les tenants, les aboutissants. On s'est dit clairement qu'au lieu de parler une fois de plus des stars, on allait parler des mécanismes, un peu des usages, quels sont les effets de tout ça sur la culture. On en a parlé pendant l'émission, l'élargissement de la culture. Aujourd'hui, il est assez indéniable et surtout apporter notre petite touche de « faut qu'on en parle ».
Donner la parole à des regards différents, confronter les points de vue, montrer que derrière les écrans, il y a des enjeux culturels, sociaux, mais surtout humains.
Oui, clairement, on voulait aussi faire réfléchir sans culpabiliser, ouvrir le débat sans juger. Il y a eu quelques petits accrochements entre nos deux invités, hein, voilà, des divergences, des points de vue. Mais c'est bon, c'est justement ça qui fait vivre la culture et le débat. Et peut-être aussi vous donner simplement les clés pour consommer ces contenus avec plus de recul et de l'esprit critique.
Alors si cette émission vous a permis de voir la télé-réalité et l'influence autrement, ni comme un fléau, ni comme une évidence, alors notre mission est réussie. C'était Faut qu'on en parle, on espère que cette émission vous a plu. On se retrouve très très vite pour une prochaine enquête. Merci d'avoir été aussi nombreux à nous suivre, à nous écouter, et on vous dit à très bientôt. Bye bye bye, bye, bye.